La bonne distance du thérapeute vis-à-vis de son patient doit tenir compte du besoin du patient. C'est-à-dire que si c'est un patient qui a des carences de base, qui a vécu des expériences du type absence, non-soutien, de mère dépressive, de couveuse prolongée, toutes ces choses-là, si c'est un patient qui a une carence de base, le thérapeute se devra de ne pas être trop silencieux, car sinon, il peut être vécu comme reproduisant le traumatisme de base et du coup devenir un thérapeute traumatique. Il serait alors dans le contraire de ce qu'il devrait faire. Et inversement, si la personne a été gavée, intrusée, envahie par de bons parents, entre guillemets, ne permettant pas à l'enfant d'avoir sa propre limite, eh bien le thérapeute devrait être très attentif à ne pas trop parler, à ne pas trop imposer ses idées, à les proposer d'une façon totalement respectueuse du point où la personne en est. Il lui faudra supporter qu'elle puisse, par exemple, choisir de ne rien dire pendant tel ou tel temps de séance, sans du tout vouloir à tout prix qu'elle parle. Donc voilà, on est toujours dans la même idée. La bonne distance entre le thérapeute et le patient est une occasion pour le patient de vivre, puis de reconstituer, un système de frontières fonctionnelles, ni trop poreuses, ni trop imperméables. Frontières fonctionnelles qui, ensuite, une fois qu'il l'a intégrée, peut s'appliquer à tous les autres types de frontières dysfonctionnelles qui sont dans sa vie, que ce soit des frontières dysfonctionnelles internes ou externes. Or, l'efficacité de cette bonne gestion de la distance est un point qui est indépendant du contenu de ce qu'on dit et qui est lié à la structure même de la relation. La distance, ça se manifeste comment? C'est le nombre d'interventions verbales qu'on émet, le type de chaleur qu'on aura dans la façon de le dire, c'est des choses comme ça. Le thérapeute devra avoir travaillé ça abondamment. Donc voilà une des raisons qui rend difficile la formation pour devenir thérapeute. Tu parles de ton expérience de responsable en groupe GEP et tu signales que trouver la bonne distance n'est pas toujours évident. Tu as raison. Mais toutefois, dans les groupes GEP, d'une part, les animateurs ne sont pas des thérapeutes et d'autre part, la situation groupale permet un certain nombre de bêtises dans la gestion de la bonne distance par les animateurs. Parce qu'il y a toute une partie du transfert qui se reporte pour chaque individu sur le groupe et sur les autres participants. Donc du coup, le groupe fait office de soutien de base qui éponge les bêtises virtuelles de la mauvaise distance des animateurs. Alors, qu'en relation duelle thérapeutique, au contraire, c'est mis en exergue d'une façon maximale, c'est surchauffé. Mais en même temps, c'est justement là l'intérêt. Comme c'est mis en exergue d'une façon maximale, c'est aussi là où ça va porter d'une façon maximale, si c'est géré correctement. Donc, retenez cette histoire de la bonne distance, qui a un rapport étroit avec la question de bonnes frontières fonctionnelles. Tout ça est très bien éclairé par les notions développées par Winnicott à propos du holding, du handling, etc. Il y a d'abord une première expérience fondamentale, similaire à celle de la petite enfance, qui consiste pour le patient à découvrir une relation avec quelqu'un qui soit juste à la bonne distance pendant un temps suffisant. Mais secondairement, si le patient évolue et que le thérapeute n'est plus à la bonne distance, ce n'est pas forcément mauvais, car ça peut être aussi une occasion pour le patient de découvrir que son thérapeute fait des conneries, mais que ce n'est pas grave, de découvrir petit à petit une espèce de désidéalisation du thérapeute et d'autonomisation du patient, qui est alors suffisamment capable de gérer désormais les erreurs, entre guillemets, du thérapeute. Ceci rejoint chez Winnicott le thème de la mère suffisamment bonne, c'est-à-dire une mère qui peut aussi faire des bêtises, ce qui peut susciter la colère de l'enfant. Mais ce n'est pas grave. Au contraire, Ça permet à l'enfant de se rendre compte que sa mère n'est pas tout et que lui, il est capable de gérer et de digérer un certain nombre de choses qui ne vont pas. Donc, en principe, le style du thérapeute doit être suffisamment plastique pour s'adapter à tout un tas de types de pathologies. De la même façon, le sexe du thérapeute n'a pas une énorme importance, quoi. Ça a de l'importance au début. Enfin, du moins, le patient croit au début que ça a de l'importance. Et puis après, ça n'a plus d'importance. Car aussi bien un thérapeute homme peut récolter pendant très longtemps un transfert maternel et représenter la mauvaise mère ou la bonne mère, et vice-versa, quoi. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'indépendamment du contenu de ce qui est dit, il y a quelque chose qui marche dans le processus lui-même. Dans le fait d'établir un cadre contenant qui tient le coup et qui ne se laisse pas déstabiliser par le patient. Et ceci, d'une certaine manière, permet de l'aider à reconstituer son contenant psychique par le fait, à l'intérieur du cadre, de vivre la bonne distance avec son thérapeute, ce qui aide le patient à reconstituer des frontières fonctionnelles. Donc vous voyez que cette question se joue indépendamment du contenu, ça tient à l'établissement du cadre et à la façon de se positionner à l'intérieur de celui-ci dans la relation avec le patient. Ce qui me conduit à vous dire que je ne suis pas du tout d'accord avec le cadre variable des Lacaniens, qui me paraît être une des pires catastrophes psychologiques qu'on ait pu inventer. Il s'agit là d'un des thèmes sur lesquels Lacan s'est séparé du reste de la communauté psychanalytique, cette question de la séance à durée variable, en adoptant un cadre qui n'est pas un cadre fixe, qui est un cadre flottant, dépendant du désir du thérapeute, c'est-à-dire c'est lui qui l'arrête quand il veut. Alors c'est censé être bien, car ça permet la scansion, ça permet, à partir du moment où on arrête sur tel thème, de lui donner plus d'importance, etc. En réalité, ça a donné des dérives commerciales très nocives, en ce sens que c'est devenu pour la plupart des thérapeutes lacaniens des séances de 10 minutes payées au même tarif que les anciennes séances de 45 minutes. Et on peut ainsi mettre beaucoup plus de rendez-vous en une heure, entre autres. Bon, enfin, il y a des tas de choses critiquables de mon point de vue dans l'approche lacanienne. Donc pour dire qu'il y a des cadres différents suivant le type de thérapie, mais qui ensuite possède une certaine fixité à l'intérieur du contrat établi pour cette thérapie-là. Alors que pour les lacaniens, le cadre temporel est variable d'une séance à l'autre. Toujours à propos du processus indépendant du contenu, ce qu'on voit très souvent qui est lié lui-même à la structuration psychique telle qu'elle s'est faite au départ pour nous tous, c'est que, en général, une thérapie commence sur le mode de l'illusion. C'est-à-dire que le patient s'attend à ce que cette thérapie comble ses attentes grandioses, donne enfin la complétude qu'il recherche, etc. Donc la personne vient en thérapie avec une attente illusoire, et ceci est un moteur à respecter, parce que grâce à cette attente illusoire, elle va pouvoir faire un travail important, mais qui en même temps va la conduire à la désidéalisation. Elle vient pour chercher la complétude, être enfin tout, être enfin grandiose, enfin idéal, et elle trouve qu'il va falloir faire le deuil de cet idéal, le deuil de cette complétude, de cette grandiosité. Donc là, il va y avoir un passage délicat à gérer, mais capital, qui est la désidéalisation de ce qui a amené en thérapie, et qui va devoir être digéré pour que la thérapie devienne intéressante et approfondie. Donc on va passer, là aussi, d'une attente grandiose à une position beaucoup moins grandiose, qui sera beaucoup plus proche de la réalité. Or, ce mouvement du grandiose au réaliste correspond ni plus ni moins au développement psychique tel que nous l'avons tous vécu. C'est-à-dire qu'au départ, l'enfant, il est mené par une illusion d'omnipotence. Il se sent le centre du monde. Il a une vision déformée dans laquelle il est le centre du monde, dans laquelle tout tourne autour de lui. Il croit que c'est comme ça. De même, il a une vision du monde qui est faussée, en ce sens qu'il voit le monde comme morcelé. Il voit un sein qui arrive, une main qui arrive, un pied qui joue au-dessus de lui. C'est son pied, mais il ne sait pas que c'est son pied. Donc il a affaire à une vision du monde morcelée et dans laquelle il est le centre du monde. Eh bien, c'est ce qu'on retrouvera dans des pathologies psychotiques, c'est-à-dire le schizophrène, de schizos, coupé. C'est quelqu'un qui a implicitement une vision du monde et de lui-même morcelée, coupée, qui est tout le temps avec des angoisses de morcellement majeures, comme si le monde et lui-même allaient s'écrouler brusquement ou partir en morceaux, comme si rien n'était solidement collé. Eh bien, c'est quelqu'un qui est resté fixé à cette vision du monde archaïque, qui n'a pas passé le cap structurant de la dépression infantile. En effet, il y a la dépression aux alentours du huitième mois, qui est le cap dont je vais vous parler, qui va faire passer l'enfant de la grandiosité et de l'omnipotence à la faiblesse, la vulnérabilité, mais en même temps à une vision de la réalité telle qu'elle est. Le schizophrène mélange, il ne sait pas vraiment ce qui est lui et ce qui est l'autre, comme ce que vit le bébé. Donc, par exemple, le schizophrène va penser que telle ou telle personne lui dit telle ou telle chose, qu'il a des voix qui l'influencent, etc., qui sont en fait ses propres pensées. Il ne sait pas faire la reconnaissance aisée entre le dedans et le dehors. Revenons à l'enfant. Il a une vision du monde morcelée et il essaye de se débrouiller pour se repérer dans ses vécus avec un mécanisme qui s'appelle le clivage. C'est-à-dire que de temps en temps, il y a un sein qui est tout bon, qui vient lui donner des tas de bonnes choses, et de temps en temps, il y a un sein qui est tout mauvais, car il n'est pas là, ce qui fait souffrir l'enfant. Donc il a une certaine représentation des choses clivées. Ça veut dire qu'il ne s'est pas rendu compte que c'était une seule et même personne qui tantôt donnait les bonnes choses et tantôt le faisait souffrir par son absence. Eh bien, cette vision clivée, on la retrouve dans le vécu du paranoïaque. C'est-à-dire, tout le monde est mauvais, je suis la cible de la persécution du monde entier, moi seul j'existe au milieu de ce monde. Il y a quelque chose avec le tout mauvais à l'extérieur, le tout bon à l'intérieur, ou inversement. Ce qui est notable en somme, c'est que tous les vécus psychotiques, avant la découverte de la réalité, et du coup de la dépendance et de l'impuissance, sont marqués par une vision de morceaux, de grandiosité, de toute puissance imaginaire. Pour le paranoïaque, tout tourne autour de lui. Si on parle à la télé, c'est de lui qu'on parle, etc. Exactement comme l'enfant pense que tout ce qui arrive arrive en fonction de lui. Or, qu'est-ce qui va se passer pour cet enfant? Il va se passer qu'il va découvrir que la mère est un objet total et que finalement lui-même, il est tout à fait dépendant de cette personne totale. Ainsi, il n'a plus affaire à un saint qu'il peut faire venir à volonté par son illusion d'omnipotence, mais à une personne qui peut venir ou ne pas venir. Donc il va découvrir sa dépendance, il va découvrir son impuissance, corollairement au fait qu'il découvre que la mère est un objet total. Ainsi, à partir du moment où il découvre l'autre comme une vraie personne, en même temps, l'enfant découvre son impuissance, sa vulnérabilité, sa fragilité. C'est tout à fait inconfortable. C'est à la fois la reconnaissance de la réalité, puisqu'au moins il voit que l'autre est autre et que parallèlement il voit que lui est lui. Mais en même temps, cette reconnaissance de la réalité amène une chute du sentiment de puissance et une désidéalisation, une chute de la grandiosité, que l'enfant tente alors de maintenir par des défenses maniaques. Quand on dit maniaque en termes de psychologie, ça ne veut pas dire quelqu'un qui est obsessionnel de l'ordre, qui veut que tout soit bien rangé et des choses comme ça. Maniaque, c'est la manie, c'est une espèce de surexcitation qui est l'inverse de la dépression. La personne maniaque, elle parle tout le temps, elle a plus faim, elle a plus soif, elle croit qu'elle peut tout faire. Elle est dans une espèce d'hyperpuissance imaginaire qui est une lutte contre la dépression. On parle de la triade maniaque, triomphe, contrôle, mépris. C'est-à-dire où l'enfant, à cette phase-là, et ensuite le psychotique maniaco-dépressif, a le sentiment d'avoir à nouveau un total contrôle sur l'objet. Donc, puisqu'il a un total contrôle sur l'objet, il ne retrouve pas cette dépendance, cette vulnérabilité, cette fragilité, et donc il ne déprime plus. Et en même temps, c'est une vision complètement fausse, purement imaginaire. La psychose bipolaire, constituée d'alternance de phases maniaco-dépressives, c'est un peu comme ça. C'est-à-dire que la personne est tantôt possédée par la grandiosité, et tantôt elle se rend compte à quel point elle est totalement impuissante et déprimée. Ces phases maniaco-dépressives tiennent au fait que la personne n'a pas réussi à faire ce deuil de la grandiosité, supposant d'avoir reconnu qu'on était fragile, dépendant, minuscule, petit, avec une mère qui peut donner du bon et du mauvais. Donc être sorti du clivage au profit de quelque chose de beaucoup moins confortable mais beaucoup plus réel, qui est l'ambivalence. Ce passage de la phase dépressive est important et délicat. Délicat parce qu'on peut soit basculer entre trop de déprime ou pas assez, soit sortir de la déprime en tentant de réparer la mer qu'on a imaginairement attaquée quand on s'est senti tellement furieux d'être si petit. Donc il y a une espèce de rage dont je parle dans le chapitre « Contrôler la violence ». Une espèce de rage du fait de se voir dépendant de cet objet qui est indépendant de nous. Cette rage envahit l'enfant de façon forte, et soit il la bascule en phase maniaque, en disant « je suis plus fort que tout », soit il accepte de rentrer dans un autre système qui consiste à reconnaître que l'autre est un autre, qu'il n'a pas intérêt à essayer de l'abîmer, qu'il a même intérêt à essayer de le restaurer, etc. Et à ce moment-là, l'enfant passe de l'autre côté du miroir, il passe sur le registre névrotique. Parce que une fois sur le registre névrotique, on n'est plus dans une vision déformée dans laquelle on est le centre du monde, dans laquelle on a affaire à du clivage et à des morceaux. On est dans une vision où c'est une réalité beaucoup plus réaliste qu'on reconnaît, dans laquelle on est dépendant, impuissant sous un certain angle, ce qui d'ailleurs va évoluer ensuite vers une puissance relative, où on va se dire « je ne suis pas si impuissant que ça ». On pourrait dire en schématisant que avant, il y avait une espèce d'indépendance totale imaginaire. Je suis totalement indépendant, tout tourne autour de moi. Indépendance. Ensuite, il y a une espèce de dépendance majeure. Je ne peux rien faire, je suis tout petit, je suis vraiment complètement livré à l'autre. Dépendance. Et puis, en troisième lieu, on découvre l'interdépendance. Je suis dépendant, mais pas tant que ça. L'autre a aussi besoin de moi, etc. Donc, un processus qui irait, qui passerait par les phases suivantes. Indépendance, dépendance, interdépendance. Vous me demandez si l'on est définitivement dans le registre névrotique ou dans le registre psychotique. Ceci est assez controversé. Mais la théorie la plus généralement acceptée, et avec laquelle je suis plutôt d'accord, c'est qu'il y a une espèce de structuration de base, et qu'ensuite cette structuration reste marquante. Si par exemple tu n'as pas réussi à dépasser la zone psychotique en faisant le passage à travers cette dépression, la reconnaissance du réel, etc., tu vas avoir des lignes de fracture psychotique tant bien que mal compensé par une sorte de faux self artificiel qui va craquer à la moindre rencontre d'une grosse difficulté. Donc la théorie actuelle, c'est qu'on est ou psychotique avec une couverture névrotique qui permet tant bien que mal de tenir le coup, ou névrotique avec des zones psychotiques qu'on peut reconnaître mais qui ne vont pas pour autant nous faire basculer du côté de la psychose. La comparaison classique des psychanalystes est la suivante. Prenons une pierre qui a un certain type de structure interne. Eh bien, quand elle va tomber ou heurter quelque chose violemment, elle va se fracturer suivant les lignes de structure interne qui n'étaient pas visibles auparavant. Une ligne de fracture se situera notamment autour de la gestion de cette dépression du huitième mois, particulièrement si elle n'a pas été franchie correctement. Elle reste comme ligne de fracture invisible jusqu'à un événement de vie qui tout d'un coup fait que ce qui n'était pas visible apparaît. Ça semble être une brusque bascule dans la psychose, mais en fait c'était déjà présent silencieusement. Mais une fois que tu es passé du côté de la structuration névrotique, si tu rencontres quelque chose de très difficile, tu vas décompenser sur un mode névrotique et non pas psychotique. On pourrait prendre la comparaison suivante. Un psychotique, ce serait quelqu'un qui a établi une apparence de maison avec en guise de toit une toile de tente et que la moindre chose un peu importante va percer tout l'ensemble. Alors qu'un névrotique, non. Et pourquoi? Parce que si tu n'as pas passé cette phase qui va accepter la réalité, si tu ne l'as pas passé à cause de l'environnement ou du fait d'un déficit dans ta propre capacité interne, là on ne sait pas vraiment quelle est la part de chacun de ces deux aspects. Si tu n'as pas passé cette phase, tu n'as pas fait le deuil d'une vision mégalomaniaque et grandiose, et à la moindre désidéalisation, tu chutes, quoi. Tandis que si tu as fait le passage névrotique, à ce moment-là, tu as appris ce que ça pouvait être, que de basculer dans l'impuissance, dans la dépendance, dans la frustration, et qu'on peut en ressortir d'une façon différente. On peut en ressortir avec une puissance relative, avec l'interdépendance, avec la reconnaissance de sa limite, et en même temps, avec la reconnaissance de la limite de l'autre. Dans la vision névrotique, il y a la vision d'un autre véritable et d'un soi différencié, qui sort de la vision irréelle, dominée par les fantasmes primaires de l'enfant. Donc, tout ça se joue précocement. Ça se joue entre 0 et 8 mois dans la théorie actuelle. Donc si on évoque, comme tu le fais, le thème de l'enfant roi de 3, 4, 5 ans, peut-être qu'en le traitant en enfant roi, on va l'instaurer dans des trucs névrotiques lourds à digérer, mais pas forcément psychotiques. Par contre, la gestion de la phase dépressive est un point très capital qui va marquer notre vie entière. C'est-à-dire influencer toutes les autres situations de deuil, de limite, de frustration, de castration symbolique. On va découvrir qu'on n'est pas tout, qu'on n'est pas tout puissant, qu'on n'est pas les deux sexes à la fois, qu'on ne peut pas tout faire, etc. Et toutes ces situations qui vont faire le quotidien de notre vie plus tard pourront être gérées correctement si on a déjà su passer toutes ces phases-là durant nos premières années d'enfance. Si on est passé sur le versant névrotique. Tandis qu'au contraire, cela donnera l'occasion d'effondrement si on est soit psychotique, soit état limite. La gestion de cette phase dépressive infantile dépend beaucoup des parents, mais pas seulement. Il y a probablement aussi une part génétique, c'est-à-dire une espèce de donnée de base d'énergie vitale de l'enfant pour supporter des trucs à côté de la part de l'environnement. Mais justement, c'est sur ces questions-là que la psychanalyse a nettement évolué. Car au niveau freudien classique, il s'agissait beaucoup de la gestion des pulsions, des données de base, des fantasmes originaires, etc. Beaucoup en fonction de la personne telle qu'elle était dans ses données intrapsychiques. Et puis en fait, petit à petit, la psychanalyse a évolué. Ou tout du moins, il y a tout un courant psychanalytique qui a donné beaucoup plus d'importance à la relation objectale, la relation. Et en particulier Winnicott. Winnicott dit par exemple, un bébé ça n'existe pas. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il veut dire qu'un bébé ça n'existe pas en soi. Un bébé ça existe en interaction avec une mère. Un bébé tout seul sans mère, il meurt, il ne peut pas exister. La seule chose qui existe c'est la dyade mère-enfant. Donc peu à peu on s'est rendu compte à quel point toutes les interactions primaires entre l'enfant et sa mère particulièrement, et son environnement plus généralement, sont vraiment un élément très important dans la structuration psychique et la gestion de ce passage de désidéalisation, de chute de la grandiosité, de découverte de l'autre en tant qu'autre, etc. Mais comme vous le voyez, au fond, autour de cette question fondamentale de la dépression, liée à la reconnaissance de l'autre en tant qu'autre total, Ce qui entraîne du coup la reconnaissance du fait qu'on a quelqu'un de fragile, d'impuissant, de vulnérable et de dépendant. On a vraiment une ligne de partage. Et c'est là-dessus qu'énormément de choses vont se rejouer dans la thérapie. Et vous vous rappelez ce que je vous avais lu à propos de pourquoi être thérapeute? Et que les thérapeutes ont souvent un rapport avec une dépression pas très bien terminée, et dans laquelle ils ont encore de très forts désirs de restauration de l'autre et de la mère, à défaut d'avoir suffisamment eu le sentiment d'être de bons enfants, capables de restaurer la mère. Donc quelque part, en traitant la dépression de l'autre, c'est aussi toute notre propre gestion du passage dépressif qu'on remet en jeu en tant que thérapeute. Et qu'on a intérêt à avoir traité soi-même préalablement en analyse ou en thérapie personnelle, bien entendu. La dépression du tout petit est une phase obligatoire et même saine, parce qu'elle permet de découvrir la réalité, de découvrir qu'au lieu d'être le centre du monde, eh ben, tu es une pauvre petite chose de rien du tout, complètement dépendante. Ça fait une sacrée chute, c'est carrément l'exil, c'est une deuxième sortie du paradis, là. Et là, on est obligé de rester un certain temps dans cette phase pour reconnaître la réalité du fait que l'on est impuissant, que l'on est faible, que l'on est dépendant, que l'autre n'est pas un tout mauvais ou un tout bon, qu'il est ambivalent, que soi-même on est ambivalent aussi, qu'on a de la rage vis-à-vis de la personne que l'on aime, etc. On découvre à la fois l'amour et la haine en même temps. Tu soulignes que les enfants ne semblent pas tous vivre cette étape de la même manière. Oui, c'est là qu'on peut penser peut-être qu'il y a un équipement génétique. Mais il est très difficile de situer la part génétique et la part environnementale. Parce que par exemple, les familles vous diront toujours, mais enfin, ils ont tous été élevés de la même manière, puisque c'est les mêmes parents. Ceci est absolument faux, puisque l'enfant n'a pas la même place dans la fratrie, n'est pas né au même moment de l'histoire familiale, n'a donc pas été l'objet des mêmes fantasmes, n'a pas reçu les mêmes attentes. Aucun enfant n'est élevé de la même manière. De même, on a fait des études avec la vidéo et on s'est rendu compte qu'il y avait des micro-comportements très importants et intenses entre la mère et l'enfant. Par exemple, je crois que c'est à Grenoble, ils avaient fait une étude vidéo avec des mères psychotiques qui portaient leur enfant dans les bras, et ils ont constaté qu'il y avait typiquement le double message tel qu'il a été reconnu par les thérapies systémiques. C'est-à-dire que par exemple la mère voulait que l'enfant la regarde, et quand il la regardait, elle lui soufflait dessus, donc sur le visage, donc il ne pouvait pas la regarder. Il fermait les yeux à ce moment-là. Et au bout d'un moment, elle disait, mais il ne me regarde pas cet enfant. Il y avait une sorte de double message transmettant approche-toi, mais reste à distance, ou quelque chose comme ça, quoi. Or ça, sans la vidéo, qui permet de voir tous ces micro-comportements quasi invisibles à l'œil nu si on n'y fait pas attention, sans la vidéo, on ne s'en rendrait pas compte. On dirait, tiens, c'est curieux, pourquoi est-ce que cette enfant se met à pleurer, etc. Et on attribuerait peut-être à l'enfant seul la responsabilité de ce comportement. Alors qu'il y a des interactions très précoces, très importantes, qui se sont à jouer à ce moment-là autour de regarde-moi et regarde-moi pas. Donc, comment dire ce qui est génétique ou pas? Dans ces cas-là, par exemple, on voit bien qu'il y a un mélange entre les deux. Et moi, j'ai quand même tendance à penser que c'est, mettons, 75% relationnel et 25% génétique. Mais c'est purement mon idée, ça peut très bien ne pas être ça. Résumons-nous. On va beaucoup travailler autour du deuil, de la limite, de la castration, de la dépendance, de la vulnérabilité, de la fragilité. Parce que c'est là que ça se joue. Si on sait gérer ça, à ce moment-là, on peut déboucher sur une vision de la réalité objective, c'est-à-dire je ne suis ni tout puissant, ni impuissant, je ne suis ni tout dépendant, ni indépendant, je suis interdépendant. Ça, c'est ce qui est à la base d'une relation intéressante avec le monde et avec soi-même. Alors évidemment, ce qu'on pourrait dire, toujours dans cette même ligne, c'est que notre société de consommation est dépressiogène. Ce n'est pas pour rien qu'il y a de plus en plus de dépression. Pourquoi? Pour une raison simple, c'est que si on veut que la société de consommation tourne, il faut que les gens consomment de plus en plus, qu'ils consomment tout le temps. Si on veut qu'ils consomment tout le temps, ils ne doivent pas se contenter de ce qu'ils ont, il faut qu'ils veuillent autre chose. Donc il faut créer le besoin. Par conséquent, la publicité, la télé, les médias, etc., vont s'employer à créer le besoin. Et ils vont créer le besoin en flattant la grandiosité infantile. Vous pouvez avoir tout. Pourquoi se priver quand on peut avoir tout? Il suffit de faire comme ça, d'acheter ça, etc. Tout dans notre culture pousse à l'idée, vous pouvez avoir tout, il n'y a aucune raison que vous ayez des limites. Donc on pourrait dire qu'il y a une logique qui fait que la société de consommation, inévitablement, suppose la publicité, qui doit elle-même fonctionner sur la flatterie de la grandiosité, puisque c'est celle-ci qui va amener l'insatisfaction. Parce que si je me dis que je peux avoir tout, je vais tâcher d'avoir tout. Et puis je vais toujours voir que je n'y arrive pas. Au bout du compte, je vais me sentir totalement frustré, impuissant, faible. Et je vais me trouver alors à basculer dans la dépression en disant, décidément, moi je n'ai rien, les autres ont tout, moi je n'ai rien réussi, je n'ai pas réussi comme j'aurais dû réussir. Les femmes dans les pubs, elles sont superbes, et pourquoi est-ce que moi j'ai des grosses fesses, etc., etc. Il y a vraiment quelque chose de culturel qui induit ainsi à la dépression. Pourquoi? Parce que ça flatte le principe de plaisir et de grandiosité, au lieu d'accepter que la frustration et le principe de réalité sont les accès à la vie, à la réalité telle qu'elle est. Et alors ensuite, on dit, tiens, c'est curieux cette nouvelle maladie, qu'est-ce qu'on va faire? Comment ça se fait que cette dépression devient une maladie galopante? En fait, ce n'est pas une maladie galopante, c'est une destruction sournoise des capacités de gestion de la limite et de la frustration, dans le but de pousser les gens à être toujours du côté d'une consommation destinée à calmer leur insatisfaction. Le bon côté, c'est qu'il y a de plus en plus de consultations de psy. Mais les gens viennent chez le psy en disant, donnez-moi tout. Alors donc, vous allez voir aux alentours de la 10e séance ou un peu moins, très souvent, il y a un virage qui va engager la thérapie. Le patient va se dire, alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Et on va déboucher sur un contrat plus réaliste. On va serrer les boulons au lieu de partir dans la grandiosité. Mais ça suppose, avant, dans ces premières séances, dans ces 10 premières séances, d'avoir créé un lien suffisamment solide pour que la personne sache qu'on est là pour l'aider à mûrir, à grandir, à devenir quelqu'un qui retrouve sa vie, et non pas pour être un publicitaire de plus. Dans la plupart des cas, la dépression est un bon signe. La dépression permet de se dire, ce que j'ai fait jusqu'à présent, ça ne marche pas. Donc ça te donne une chance de pouvoir poser le problème autrement. Ça ne se chronicise que lorsque les gens refusent de le poser autrement. Ils veulent essayer de l'aménager tant bien que mal avec des médicaments, parce qu'ils le prennent comme si c'était une maladie, au lieu que ça soit un signal. Les gens dépressifs chroniques que j'ai vus dans ma clientèle sont souvent des gens qui sont très orientés vers une solution externe, qui prennent du Prozac depuis 10 ans, qui prennent des anxiolytiques depuis 10 ans. Ça, c'est une bonne manière de chroniciser, puisqu'il y a un message de la dépression qui dit ça marche pas, quitte ta grandiosité, accepte ton impuissance. Ce message, bien sûr, n'est pas agréable du tout, mais une fois que tu l'as vu, tu as des chances de passer vers quelque chose de bien plus intéressant que si tu veux à tout prix maintenir l'ancien système et donc maintenir la dépression. Est-ce que la dépression réactionnelle est réactionnelle? Toujours plus ou moins. Il y a toujours des raisons extérieures. C'est parce que mon mari m'a trompé, c'est parce que j'ai eu le deuil de ma mère, etc. On trouve la plupart du temps des raisons extérieures. Mais celles-ci n'ont d'impact que dans la mesure où elles sont relayées fortement par l'intérieur, quoi. Donc je crois que prendre au premier degré Les raisons extérieures que la personne t'amène pour justifier sa dépression, c'est encore une fois se tromper de cible. C'est aller chercher à l'extérieur ce qui en fait se trouve à l'intérieur. Alors ça ne veut pas dire que l'extérieur n'a pas eu d'effet. C'est venu secouer ou casser la pierre, suivant les profils. Ça a été un déclencheur. Mais ensuite, au contraire, il faut faire saisir à la personne que, oui, c'est dur, mais c'est une très bonne occasion de régler la relation avec ce qui l'a déstabilisé. Et encore plus loin, avec ce qui, en dessous, l'avait fragilisé. On verra ensemble comment il faut pratiquer avec le recadrage. Mais presque toujours, on débouchera sur l'idée que, au fond, cette crise est une chance d'aller plus loin. Au lieu de se laisser coller à la supposée cause, « Il m'a trompé, je ne peux plus le supporter », ou « Ma mère est morte, je n'arrive pas à m'en remettre », etc. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des périodes de vie objectivement très difficiles. Mais une bonne question à se poser, c'est pourquoi la dépression maintenant? Pourquoi pas au choc précédent? Pourquoi maintenant? Et la plupart du temps, on s'aperçoit que ce n'est pas seulement l'accumulation des chocs qui a provoqué la déprime. C'est aussi qu'il y a eu un autre décodage à l'intérieur de la personne de ce dernier choc en question. Alors peut-être c'est un décodage qui dit « Décidément, j'ai vraiment pas de veine, ma vie est un destin pourri puisque je retrouve ça et ça. » À un moment donné, il y a un décodage qui blesse la personne beaucoup plus que la réalité externe. Je ne veux pas dire que la réalité externe n'est pas difficile à digérer. Il y a des deuils qui rendent forcément triste et amer et déçu, et tu peux pleurer beaucoup, surtout si c'est un deuil très proche. Mais un deuil, bien que cela ressemble à une dépression, n'est pas une dépression. C'est autre chose. C'est une très grande tristesse, une blessure, un sentiment de ne plus avoir envie de vivre, etc. Et c'est à traverser jusqu'à ce qu'on en sorte. Il y a aussi la dépression liée à la psychose bipolaire, maniaco-dépressive. Rappelons-nous qu'il y a deux solutions dans la phase dépressive qui empêchent de passer celle-ci si l'on reste fixé à ces solutions. Il y a la lutte contre la dépression par la phase maniaque et la chute dans une profonde dépression insurmontable et puis l'alternance entre ces deux états. Or, la personne qui n'a pas réussi à dépasser cette phase et qui s'est installé dans cette bascule maniaco-dépressive, psychotique, doit impérativement être soignée chimiquement. Car sinon, elle va se suicider. Parce que lorsqu'elle est en déprime grave, elle n'a pas de recours pour ressortir de cela. Donc toutes les psychoses, que ce soit schizophrénie, paranoïa, psychose maniaco-dépressive, ont impérativement besoin d'être traitées d'une façon chimiothérapique. Pourquoi ? Parce que l'apport chimique amène une espèce de semblant de reconstitution d'un contenant psychique, tant bien que mal établi. Certes, on a pu penser, et ce n'est pas fou non plus, que si on donne un autre type de contenant psychique à ce psychisme morcelé, éclaté et fou, il peut faire face. Par exemple, ça peut être un service psychiatrique fermé, très soutenant et entourant, ou ça peut être l'école orthogénique de Bettelheim, ou ça peut être un groupe avec lequel la personne est extrêmement liée. Tout ceci amènerait alors une sorte de contenant externe. Mais dans tous ces cas lourds, de toute façon, il faut un contenant externe. Les psychotiques ont besoin d'un contenant externe. Alors en général, le contenant externe le plus facile est une médication chimiothérapique. Mais ça peut être un contenant externe différent, ça peut être un service psychiatrique soudé, ça peut être autre chose. Au fond, on pourrait dire qu'on leur amène le contenant qu'ils sont incapables d'avoir intérieurement. Donc, si l'on a affaire à une psychose maniaco-dépressive, on ne va pas pouvoir dire à la personne qui bascule dans la phase dépressive psychotique que c'est une crise utile qui va lui permettre de remettre en question sa vie, etc. Non, là, au contraire, il faut tout de suite faire quelque chose pour empêcher le suicide. Comment sentir si l'on a affaire à un patient psychotique? En fait, le contre-transfert et le vécu intérieur sont de très bons critères pour savoir à quel type de pathologie on a affaire. Bien sûr, nous ferons aussi un travail sur la psychopathologie en deuxième année, mais vous verrez que le diagnostic n'est pas si difficile que ça. Donc il y a dépression et dépression. Ça se joue toujours autour de la question psychotique ou névrotique. Est-ce que la personne est passée sur l'autre versant? Et à ce moment-là, c'est des dépressions névrotiques et on peut travailler longuement sur la frustration, la limite, etc. Ou est-ce qu'elle n'est pas passée sur l'autre versant et elle reste accrochée à une grandiosité imaginaire, non castrée, non limitée symboliquement? Car secrètement, il y a toujours un enjeu de toute puissance imaginaire chez le psychotique. Quand tu es du côté névrotique, ça n'empêche pas que tu sois passé toi-même à travers les étapes précédentes. Tu as des souvenirs et des particularités qui peuvent être psychotiques, mais transitoires. Ce n'est pas pour autant que tu vas devenir psychotique. Tu peux avoir des vécus psychotiques sans forcément être psychotique. Tu peux avoir une phase délirante d'une journée sans que ça veuille dire forcément que tu es une personne folle. Ceci dit, la grandiosité, on a tous à faire avec ça, notre vie durant. Parce que ça nous reste en travers de la gorge, le fait d'avoir dû basculer de l'autre côté. Et donc il y a toujours une partie de nous-mêmes qui est tentée de revenir à l'en-deçà de cette frontière, qui veut être tout puissant, avoir les autres comme des objets partiels à son service, être le centre du monde, etc. Jouer à être le plus nul, c'est aussi de la grandiosité. Dans ce cas-là, ça ne donnerait pas vraiment le côté maniaque, ça donnerait peut-être plutôt la dépression, ou bien une espèce de satisfaction morbide, intensive, une espèce de jouissance maniaque, mais dans un sens d'explosion de rage contre soi-même. Et on peut relier cela au jeu victime, sauveteur, persécuteur. Ce que vous voyez au fur et à mesure qu'on va approcher différentes théories, c'est que vous pouvez faire des liens de l'une à l'autre. Alors ce qui est bien, c'est qu'ensuite, à l'aide d'une théorie simple comme celle de l'athée, vous pouvez tout d'abord repérer des trucs, et puis après, aller plus loin dans la compréhension de la problématique de la personne grâce à une théorie plus fouillée que l'athée. Un mot sur l'angoisse du huitième mois. En fait, ce qu'on appelle l'angoisse du huitième mois, c'est que l'enfant reconnaît d'une façon claire la différence entre les autres, les étrangers, et sa famille. Donc ça suppose qu'il reconnaît les autres comme des gens complets. Mais dans la théorie de Melanie Klein, par exemple, et qui est justement à l'origine de cette phase, de cette théorie de la phase dépressive, elle situe ça beaucoup plus tôt. Alors en fait, on n'est pas complètement sûr des dates. On dit à peu près troisième mois pour l'empreinte, huitième mois pour la reconnaissance de l'objet total, quinzième mois pour la phase du nom, mais ce sont des grands repères approximatifs. Ceci dit, c'est quand même une vision assez éthologique vue de l'extérieur, le fait que les enfants aux alentours de 7, 8, 9 mois ont un autre type d'attitude envers l'extérieur et la famille. On voit que c'est comme ça. On ne sait pas exactement pourquoi. Est-ce que c'est une question de maturation du cerveau ou autre chose? On n'en sait rien. Il y a eu une étude intéressante de Bettelheim qui s'appelle Les enfants du rêve et qui montre quelque chose qui est complètement troublant pour notre vision habituelle. Reste à savoir si cette étude a été complètement juste et objective. Mais bon, c'est la suivante. Au moment où les Juifs se sont installés là-bas et où ils ont créé des kibboutz, c'était une bande de révolutionnaires, ils voulaient tout changer. Et entre autres changements, ils ont décidé que, étant donné que tout le monde devait travailler activement à la colonisation et à la mise en place de tout, on ne pouvait pas permettre que les parents soient encombrés avec les enfants. Donc la règle du jeu qu'ils ont mise en place était la suivante. À partir du troisième mois, enfin je crois, au troisième mois aux alentours, l'enfant est retiré à ses parents toute la journée. Il vit en collectivité avec des puéricultrices et avec la bande d'enfants de son âge. Et il est donné à ses parents 1 heure par jour pour le contact à la fin de la journée, etc. Et ça pendant des années. Donc voilà une façon de faire contraire à tout ce qu'on dirait habituellement sain et normal. Parce que nous, on dirait que si on sépare un enfant à 3 mois de ses parents, ça va donner des catastrophes psychiques. Or, le résultat était le suivant. Ça a donné, pour ces enfants qui sont ensuite devenus adultes, des adultes dont la tranche d'âge montrait peu de variations individuelles, c'est-à-dire il y avait peu de super génies et peu de débiles, il y avait plus nettement une sorte de moyenne, et surtout il s'était formé une espèce de moi groupal. C'est-à-dire que ces gens étaient très peu capables de prendre des décisions tout seuls, indépendamment d'un groupe de référence. Comme s'ils avaient pris le groupe de référence de leur âge, avec lequel ils s'étaient développés, comme image support, à défaut d'avoir intégré un modèle parental externe. Ça veut dire que malgré tout, ça a fonctionné, mais en débouchant sur un autre type de personnalité adulte, où c'était finalement des adultes non autonomes, dépendants du groupe, mais bien dans leur peau tant qu'ils étaient avec le moi groupal. Tout ça pour dire qu'à contrario, ça montre l'importance du type de relation dans lequel l'enfant s'est développé, puisque c'est ce qui va donner un certain type de personnalité adulte. On ne peut pas économiser cette place de l'autre en nous. En fait, durant toute la première partie de vie, chacun de nous vit sur un personnage qui est très fortement marqué par l'autre, par ce qu'on a vécu dans l'enfance, par les vérités qui avaient cours dans notre milieu d'origine, etc. Donc, on pourrait dire que durant tout un premier temps, on vit avec un certain nombre de valeurs qui, en fait, ne sont pas véritablement les nôtres, choisies par nous-mêmes, mais qui ont permis de construire notre personnage. Or, il n'est pas possible de faire autrement. Il faut qu'on ait ce personnage pour que, à l'intérieur de cette coque protectrice, le noyau de la personne suffisamment protégée puisse grandir, se développer, etc. Jusqu'au moment où on va pouvoir casser le personnage et laisser émerger le noyau. Et c'est ça la crise de mi-vie. Tout au moins, c'est ce que ça pourrait être. Alors après cette crise, bien sûr, si on renforce encore le personnage antérieur, là, c'est très dangereux, quoi. On peut prendre la métaphore suivante. C'est comme si nous étions d'abord un tout petit arbre qui a absolument besoin d'avoir un tuteur avant qu'il ait un tronc suffisamment épais pour tenir seul. On ne peut pas dire, ah ben non, il ne faudrait pas qu'il y ait de tuteur, il ne faudrait pas qu'il y ait le poids de ses identifications à l'autre, c'est vraiment dommage, etc. Eh bien, ce n'est pas possible autrement. Il faut qu'il y ait un personnage pendant un temps suffisant pour qu'on ait acquis une espèce de force de l'ego, du moi, qui elle-même sera remise en cause ultérieurement lorsqu'on pourra se dire, mais au fond, tout ça, c'est pas forcément moi. Avant de pouvoir se dire ceci d'une façon fertile, il était nécessaire qu'on ait acquis cette sécurité interne grâce au personnage. Comprenons-nous, la crise de mi-vie ne consiste pas à rejeter forcément tout ce qu'on avait adoré précédemment. Il s'agit plutôt de faire le tri. Désormais, je trie. Ça, je garde. Ça, je ne garde pas. Alors qu'avant, on n'avait pas fait le tri parce qu'on croyait que tout était à nous. Et qu'en réalité, c'était à 95% à l'autre. Cependant, les gens sont plus ou moins proches de leur noyau. Et lorsque je dis crise de mi-vie, cela peut se situer plus tôt ou plus tard, selon les personnes. On remarque cependant au GEP et parmi vous que la plupart des gens qui font du travail sur eux le font quand même à partir de 35-40 ans. Toutefois, souvent ce qu'on voit, nous, en thérapie, ce sont des gens qui sont en période de virage dans leur vie. Ça peut être aux alentours de 20-25 ans, quand il s'agit de sortir des limbes de l'adolescence pour réussir à se faire son trou social, avec la difficulté pour l'adolescent face à la question, bon, cette foutue société, est-ce que je vais y trouver ma place sans y perdre mon âme? Ça peut être pratiquement toutes les dizaines. Ça peut être à 40 ans quand même, parce que là, il y a déjà une crise sérieuse. Ça peut être à 60 parce qu'il y a la retraite. Entre-temps, ça peut être parce qu'il y a l'arrivée du premier enfant et que ça change tous les rôles. Ça peut être parce qu'il y a un changement professionnel important qui va représenter toute une nouvelle histoire dans laquelle on s'embarque, etc. Souvent, c'est à l'occasion d'un gros virage dans la vie que la personne va se décider à faire une thérapie, parce que ça va déstabiliser tout son système antérieur. Mais malgré tout, je crois quand même que cette espèce de recherche de sa vérité profonde et de la personne qui est en nous, c'est plus une caractéristique d'après la mi-vie, de la deuxième partie de la vie. Dans la première partie, vous verrez des gens qui viendront en thérapie pour mieux fonctionner. Dans la deuxième partie, vous aurez des gens qui viendront pour mieux se trouver. Il ne s'agit pas de la même démarche. Et c'est vrai qu'en formation de thérapie axiale, la majorité se situe au-dessus de 35-40 ans. Tu dis, si on explore ce noyau, est-ce qu'on pourra vraiment continuer dans le cadre où l'on est, dans le couple que l'on forme, etc. En fait, à tout moment se pose la question suivante, qu'est-ce que je garde d'avant et qu'est-ce que je change maintenant? À tout moment, ça se pose. Pas seulement dans une perspective de divorce. Ça se pose quand tu as un enfant et que tu l'amènes à l'école et que tu vas te frotter à l'école. Ça se pose quand tu changes de travail. À tout moment, il y a cette crise-là, plus ou moins nette. Simplement, lors d'un divorce, c'est plus visible. Mais au fond, la crise de mi-vie n'exige pas forcément de devoir tout balancer. En fait, c'est tout au long de la vie qu'on doit sans arrêt bouger, qu'on est obligé sans arrêt de gérer le fait que les choses changent. Bien sûr, il y a des gens qui essayent de faire que ça ne change pas et ils croient que c'est comme ça que ça va aller. En pratique, il est aussi dangereux d'essayer de maintenir du non-changement que de savoir que tout le temps ça va changer, qu'on ne pourra jamais vraiment se reposer sur une situation acquise. Donc c'est un peu un artefact de croire que parce qu'il y a la crise de mi-vie bien manifeste, c'est là que tout se joue. En réalité, ça se joue sans arrêt à travers toutes les mini-crises de la vie. Et il y a tout le temps des trucs à gérer, soit une réussite ou une défaite excessive, soit une frustration, etc. La naissance du premier enfant, par exemple, est un passage hautement déstabilisant, pour plein de raisons. Premièrement, pour le couple, ça fait basculer le couple dans autre chose, ils deviennent des parents, il y a vraiment quelque chose de différent. Deuxièmement, car chacun des deux va avoir son programme qui va se mettre en route. Le père avec le programme de ce que c'est d'être un père, la mère avec le programme de ce que c'est d'être une mère. Comme ils n'auront pas le même programme, ils vont se heurter et s'engueuler sans arrêt, si ce sont des bons parents. Ça déstabilise parce que tous les enjeux identificatoires cachés précédemment se retrouvent au premier plan. Est-ce que je vais récupérer le modèle inconscient qui est en train de pointer en moi, basé sur ce que j'ai cru voir et sentir de mon modèle parental, ou non? Comment je vais me situer dans mes rapports intérieurs avec les diverses parties de moi entre le nouveau logiciel qui s'est mis en route et puis l'ancien système? Comment est-ce que je vais me débrouiller avec mon conjoint, etc. Donc ça fait une pression majeure, quoi. La venue du premier enfant est une étape importante. En plus, cet enfant récolte tous les fantasmes d'attente que l'enfant réalise, ce qu'on n'a pas pu soi-même réaliser, etc. C'est déstabilisant, mais il y a plein d'autres trucs qui sont déstabilisants. Le fait même de se mettre en couple remue plein de choses qui peuvent se voir souvent au moment du mariage. Tu as des gens, à peine ils sont mariés, ils commencent à aller mal. Ou bien, un grand classique, c'est à la maison de campagne que le couple retape pendant 10 ans, ils y passent tous leurs week-ends, etc. Et quand la maison est nickel terminée, ils divorcent. Reprenons la lecture du cœur métamorphe. En répondant à vos remarques, aux questions, je vais faire quelques petits commentaires. Alors, ta remarque est la suivante. Le petit garçon a été l'objet de l'admiration et de l'adoration de la mère. Certes, mais pas seulement. Il a été aussi l'objet de manipulation. Il s'est senti sous la coupe. Souvent, on voit des petits garçons plus infantiles que les petites filles, plus collés à maman. C'est qu'il y a cette espèce de lien très étroit qui les rend plus facilement dépendants de maman. Et alors, à l'âge adulte, ils ne veulent surtout plus qu'on leur mette la main dessus. Être dépendant, plus jamais ça. Je l'ai trop vécu. Les petites filles sont moins dépendantes de la mère. Elles sont plus vite mûres, plus vite dans une relation aider maman et pas forcément être la petite chose. Il est vrai que cela dépend de la culture et du milieu d'origine, mais il reste quand même cette constatation incontournable. La mère et la fille ont le même sexe, et donc c'est pas le même investissement, c'est pas les mêmes attentes, c'est pas la même façon de faire. Autre point, cette histoire d'intrusion est une question fondamentale chez tout le monde, hommes, femmes, mais aussi d'une façon générale, car on retrouve la question des frontières. Chaque fois que quelqu'un cherche à pénétrer trop violemment à l'intérieur de nos frontières, ça pose problème. Alors, ou tu acceptes et tu le payes autrement, ou tu n'acceptes pas et il va falloir réguler le passage de la frontière correctement. Autre chose, la subtilité du langage est effectivement ce qui permet la subtilité de l'expression du vécu intérieur. Ce n'est pas pour rien que dans toutes les grandes dictatures, ou dans le livre de George Orwell 1984, une des intentions extrêmes du dictateur, c'est d'avoir la maîtrise des mots, de les manipuler, la novlangue. Vous pouvez même faire plein de constats à ce propos en écoutant les politiciens. Tu remarques, ce qui nous avait séduit chez l'autre devient le plus détestable, et tu as vraiment l'impression d'une impasse, tu te demandes comment faire. Ce n'est pas une impasse. Certes, ce qui nous a séduit chez l'autre, c'est ce qui devient le plus détestable, mais justement, c'est ce sur quoi on va devoir focaliser notre travail. Ça nous indique exactement quel est notre problème. Donc ça donne une chance de pouvoir faire évoluer notre propre intérieur, puisqu'on sait où il faut regarder. Ça, c'est une grande chance. D'ailleurs, Freud dit, si je vous dis, regardez dans le ciel, il y a un avion, vous ne le voyez pas forcément, mais si je vous dis, regardez à tel endroit, vous le voyez. Là, c'est pareil. Si on sait vers quoi il faut regarder, on a beaucoup plus de chances de faire un travail correct. Or là, une fois qu'on a vu que ce qui nous a séduit nous agace le plus, ça nous renvoie inévitablement à papa, maman, etc. Et donc on sait que c'est de ce côté-là qu'il faut chercher, dans un travail intérieur. De toute façon, il faut concevoir le couple à long terme comme un support d'évolution personnelle et de thérapie personnelle remarquable. S'il y a bien quelqu'un qui va nous faire travailler, c'est le conjoint. Et aussi les enfants, secondairement. Car ils nous renvoient en miroir des trucs avec lesquels on n'est pas au clair et qu'eux-mêmes présentent sous une forme grossie à la loupe. Autre question, tu t'interroges sur la sortie des scénarios répétitifs. À un moment donné, comment est-ce qu'on en sort? En refusant ce scénario quand il se présente et quand on le voit, ou en y allant consciemment? La réponse se situe ailleurs. Il ne s'agit ni de le refuser volontairement, ni de plonger dedans sciemment. C'est en le voyant et en le contenant, parce que sinon, inévitablement, on va se faire reprendre. Quand il y a un vieux scénario qui recommence, il faut le voir, le contenir, et puis peut-être du coup, avec la pression que ça va supposer à l'intérieur de nous, puisque c'est difficilement supportable de se voir ainsi, avoir la chance de parvenir à une position méta qui va découvrir des solutions différentes. Tant qu'on n'aura pas accepté de se mettre sous la pression de cette tension interne qui conserve le scénario sans y être soumis et tout en l'observant, on ne pourra pas y échapper. Il s'agit de plonger dans cette espèce de creuset alchimique, le cœur métamorphe. On va conserver à l'intérieur de soi la partie problématique et la regarder sans lui donner la possibilité de se vider dans un acte, jusqu'au moment où la tension intérieure va déboucher sur une solution créative, dans laquelle la nouvelle façon de voir ne sera pas uniquement issue du mental, mais de l'ensemble de soi-même. Voilà. Ça, c'est la théorie. Maintenant, on verra dans la pratique. Et pour aujourd'hui, on va arrêter là.